Radio JV présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu The Stanley Parable, disponible en téléchargement à compter de 2011 et développé par Dave Redden, et son remake développé par Galactic Café est disponible sur Steam 2 ans plus tard.
Première partie, présentation et problématique.
On ne redira jamais assez l'importance de la réécriture, du palimpseste, de la modification existant dans la création artistique et médiatique en général. Il n'y a jamais réellement d'originalité, d'où que l'on regarde. Toute invention est avant tout traduction, adaptation, reprise d'objets antérieurs, ajout à partir d'une forme connue. Le jeu vidéo, et la tendance s'est accélérée ces dernières années, connaît fort bien ce phénomène, et les joueurs de modifier tout ce qu'ils peuvent. Ces modes, comme on les appelle, d'être de plusieurs sortes. Il y a ceux qui proposent des textures et des graphismes améliorés vis-à-vis d'un jeu qui se fait ancien. Il y a ceux qui viennent ajouter des fonctionnalités absentes, des quêtes supplémentaires, des objets nouveaux. Enfin, il y a ceux qui reprennent un moteur, un univers, et créent un tout nouveau jeu à partir de cette base. The Stanley Parable est de cela. Dave Redden réutilisa ainsi le fameux moteur Source, connu notamment pour son exploitation dans Half-Life 2, afin de proposer une expérience davantage qu'une aventure. Très rapidement, ce mode gagna en popularité et on en parla très régulièrement dans les milieux autorisés, et avec raison. Beaucoup de choses, effectivement, attirèrent les attentions, mais 3 éléments en particulier détonnent vis-à-vis de la plus grande part de la production vidéoludique contemporaine. Premièrement, The Stanley Parable prend place dans un environnement connu et affreusement banal. Nous suivons ainsi les tribulations d'un employé de bureau nommé Stanley, alors qu'il travaille comme chaque jour que Dieu fait devant son ordinateur pour une entreprise quelconque. Ce jour-là pourtant, il s'aperçoit qu'il est le seul être vivant du bâtiment. Tout le monde a mystérieusement disparu. Le joueur devra alors explorer les bureaux, les parkings, les couloirs, afin de comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, chaque action du joueur, chaque moment de l'aventure, est accompagné d'un commentaire d'un mystérieux narrateur, interprété par l'envoûtant Kevan Brightning, qui va prendre au fur et à mesure du temps de plus en plus de volume. Tout d'abord éminemment descriptif, il finira par invectiver Stanley, puis, plus troublant encore, le joueur lui-même, brisant alors l'illusion du 4e mur dont j'ai régulièrement parlé dans cette émission. Enfin, et troisièmement, le jeu est volontairement déconcertant et place au cœur de sa réflexion la notion de choix. En effet, le joueur est souvent confronté à plusieurs options et, en fonction de ses réactions, sera conduit sur d'autres chemins, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à l'une des nombreuses fins proposées par le développeur. Le discours entourant The Stanley Parable, le plus souvent, se concentra sur sa portée philosophique, voire politique. Le titre même du jeu renvoie à ces paraboles bibliques, soit à ces récits allégoriques prenant place dans un contexte familier et qui enseigne des valeurs morales ou éthiques. En fonction, alors, des joueurs, des parties, des fins entrevues, des réflexions aussi diverses et variées que la place de l'individu dans l'entreprise, l'esprit du capitalisme, le sens de la solitude, la portée téléologique de l'existence humaine sont apparues et des choses très intéressantes ont été dites. Peu importe, comme toujours, que ces messages aient été voulus par le développeur ou non. Si la lecture existe, elle est de facto valable. Ce n'est cependant pas dans cette direction que je souhaite me diriger. J'aimerais ici revenir sur l'adéquation de The Stanley Parable, son gameplay, avec l'identité du média jeu vidéo et m'interroger sur le principe du choix qui arc-boute sa progression en relation avec les différentes fins que le jeu propose. En effet, dans la mesure où chaque action menée par le joueur mène à l'une des fins prévues par les développeurs, l'on ne saurait comparer pleinement ce jeu avec un univers bac à sable, comme les Sims, que l'on peut parcourir ad libitum. Et bien entendu, l'on ne saurait le rattacher à Half-Life, mettons, dans la mesure où il n'existe pas un seul chemin prédéterminé amenant au générique. Il existe alors une tension particulière ici, entre d'une part la liberté offerte par les nombreux choix que peut faire le joueur, d'autre part le script, soit le scénario, l'arbre des différents embranchements que le joueur peut prendre et qui ont donc tous été prévus. L'on ne peut être à la fois libre et enchaîné. C'est pourtant la première impression qui domine. Il nous faut donc considérer qu'il y a dissimulation ou perversion du principe inhérent du jeu vidéo pour proposer quelque chose de neuf. C'est alors aux modalités de cette perversion, à ce résultat, que je m'intéresserai dans cette émission. Je poserai alors la problématique comme suit. Quelle conciliation existe-t-il dans The Stanley Parable entre liberté du choix et issue de l'aventure?
Deuxième partie, liberté cartésienne et contrainte spinoziste.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me faut poser ici un certain nombre de concepts opératoires et faire appel, en cela, à la philosophie. La notion de choix, parce qu'elle a partie liée avec celle de liberté et de jugement, a été des plus étudiées par les penseurs. Je ne proposerai pas ici un panorama historique et complet de ces nombreuses études, mais je vais tâcher de poser quelques endroits signifiants et définir les tensions que l'on peut trouver dans ces termes. L'action de choisir consiste effectivement, nous disent les dictionnaires, à sélectionner parmi un ensemble d'éléments rassemblés selon certaines caractéristiques objectives ou subjectives, un ou plusieurs de ceux-ci en fonction de diverses préférences de qualité, de mérite ou d'estime. Lorsque l'on est au restaurant, nous choisissons un plat, sinon qu'un autre, en fonction de son prix, de ses envies ou de son goût personnel, et ainsi de suite. Ce faisant, le choix, soit la résultante de cette action de discrimination, s'appuie sur deux principes sous-jacents. D'une part, le jugement. Faire un choix, cela suppose de comparer les différents éléments entre eux et, alors, de lister leurs qualités et leurs défauts. Il convient de les mesurer, de les critiquer dans le sens étymologique du terme, afin d'établir une prévalence ou une préséance de l'un vis-à-vis de l'autre. Un choix est par définition motivé. Ce n'est pas une décision arbitraire. Pour continuer sur l'exemple du restaurant, nombre de parents imposent le plat à leur enfant. Celui-ci ne fait donc pas de choix dans la mesure où il n'a pas opéré cette comparaison. D'autre part, la liberté. Faire un choix implique que l'on puisse être libre de sélectionner un élément plutôt qu'un autre en fonction de son jugement et que rien ne nous sera imposé pour dicter notre élection. Un restaurant qui ne propose, sur son menu, qu'un seul plat ne permet pas le choix. Ce n'est pas que l'on puisse comparer ce plat avec un autre qui aurait notre préférence, mais l'on n'a pas la liberté d'en choisir un autre. Ceci étant posé, les difficultés inhérentes à ce sujet se font jour très rapidement. Le jugement suppose effectivement une raison éclairée. Il implique que nous ayons accès à toutes les propriétés des objets concernés d'une façon égale afin de pouvoir les comparer efficacement. Si l'on verse dans deux verres distincts deux liquides préalablement chauffés et que l'on désire choisir le plus chaud des deux, l'on ne saurait le faire si nous n'avons pas expérimenté leur chaleur d'une façon ou d'une autre. La liberté suppose, de même, qu'aucune pression, qu'aucune contrainte précédant, accompagnant ou suivant le choix ne nous invite à sélectionner un objet, sinon qu'un autre. Il faut alors, notamment, que les conséquences de ces choix soient sinon égales, du moins inconnues à parts égales. Un individu qui digère ainsi difficilement, mettons, le fromage, ne sera pas entièrement libre de son choix dans un restaurant. Et ce non pas parce qu'il jugerait ce plat moins délicieux qu'un autre, mais parce que les conséquences de ce choix, ici une nuit difficile, l'empêchent d'être parfaitement libre dans sa décision. Plusieurs critiques et objections ont alors été soulevées au fur et à mesure du temps, sur ces deux éléments. Mais il est possible de réduire, plus ou moins, ces problématiques à deux positions antagonistes, incarnées notamment dans la littérature par René Descartes d'une part, Baruch Spinoza de l'autre. Je m'en vais profondément simplifier leurs pensées pour la suite de cet exposé, aussi que les zélotes me pardonnent. La position de Descartes, que l'on appelle couramment le cartésianisme, place la raison et le libre arbitre au cœur de l'esprit humain. Elle considère que l'homme, animal doué de raison, à l'inverse des animaux, considérés comme des machines vivantes, possède de façon inhérente la faculté, en toute position et en tout lieu, de se détacher de ses passions pour ne devenir que pur esprit et, alors, avoir toujours la liberté de choisir de façon objective, sans influence aucune. L'homme est considéré comme maître de sa destinée, constamment, et choisit, alors, en toute connaissance de cause, tel ou tel chemin, tel ou tel bien, tel ou tel mal. Son choix ne peut jamais être contraint, ou, du moins, il lui est possible de se libérer de ses contraintes. Spinoza, quant à lui et différemment, prive l'homme de son libre arbitre. Il considère que tout jugement, que toute décision, n'est que la résultante de causes et de pressions diverses, inconscientes pour la plupart, qui vont influencer l'ensemble de nos choix sans que nous ne nous en apercevions. Les théories de la psychanalyse et de la sociologie iront plus ou moins dans la même direction. Même si nous pensons agir de notre plein gré, nous sommes constamment dépendants de structures ou de catégories qui influencent nos actions. Cela ne signifie pas pour autant que nos choix sont déconnectés du jugement, mais que celui-ci ne peut jamais être parfaitement éclairé et que nous sommes dépendants de nombreux biais. Le jeu vidéo, et c'est ce que je vais à présent montrer, prend appui sur ces notions pour exister, et c'est en cela que The Stanley Parable se démarque profondément.
Troisième partie, objectif, stratégie, illusion.
Dans une précédente émission consacrée à Link's Awakening, j'avais défini les trois pôles définitoires du jeu vidéo. Un espace, des règles et un objectif. Je vais me concentrer plus en détail sur ce dernier point. Un jeu vidéo est effectivement un média, une forme d'expression, construit sur une optique téléologique, c'est-à-dire tout orienté vers sa complétion. Cette complétion, cet objectif final, est toujours présente. Elle peut être soit donnée explicitement par le jeu, sauver la princesse, battre le dernier boss, atteindre un certain nombre de points, etc. Soit imposée arbitrairement par le joueur, par exemple dans les Sims. S'il n'y a pas réellement dans son jeu de complétion, le joueur décidera qu'il lui faudra assez d'argent pour construire un deuxième étage à sa maison, avoir un enfant avec tel personnage, obtenir telle compétence. Jouer n'est jamais innocent, et on fomente toujours l'un ou l'autre projet au cours de sa partie. Ce faisant, le joueur n'est jamais parfaitement libre et il ne peut jamais faire ses propres choix. Il est contraint, et comme je l'avais montré dans d'autres émissions, par les décisions des développeurs qui lui permettent d'accomplir ou de ne pas accomplir certaines actions. Impossible de sauter dans un Final Fantasy, impossible d'utiliser une épée dans Super Mario Bros. Mais également par cet objectif final qui oriente ses choix. Tout ce que le joueur entreprend, d'une façon ou d'une autre, doit le conduire à la fin du jeu. Et si on lui permet, ponctuellement, de prendre tel ou tel embranchement, ce n'est finalement qu'un détour le ramenant sur des rails. Sa liberté est donc inexistante. Et seul demeure son jugement. Celui-ci est primordial. C'est ce qui va lui permettre d'élaborer des stratégies, de privilégier une approche sinon qu'une autre, de se concentrer sur un objectif secondaire en particulier. Cette faculté de jugement lui est permise par l'expérience qu'il peut avoir du jeu, par les différentes victoires et les différents échecs entrevus par le passé et restent alors intègres. Cela n'enlève rien au fait qu'un joueur n'est jamais libre dans un jeu vidéo et qu'il ne peut donc jamais parfaitement faire un choix. On ne lui offre qu'une illusion de liberté, plus ou moins réussie, plus ou moins visible selon les jeux, et rien de plus. Revenons alors à The Stanley Parable, et observons la façon dont le jeu investit et réinvestit la thématique du choix pour se construire. En tant que jeu vidéo, The Stanley Parable ne nous propose pas de choix en tant que tel, mais bien une illusion de choix, en l'objet, et notamment, de ce hall où deux portes sont offertes aux joueurs. L'une à gauche, l'autre à droite. À ce moment-là, le narrateur, qui nous accompagne depuis nos premiers pas, nous enjoint à prendre la porte de gauche. Dès l'instant où la voix, où l'inscription apparaît, la relique de choix qui pouvait encore potentiellement exister disparaît alors, puisque le joueur ne possède plus de liberté. Les deux options ne sont plus égales, puisque l'une d'entre elles a été sélectionnée pour nous. Il ne s'agit pas de prendre la porte de gauche ou celle de droite, mais bien ou de respecter la consigne, ou de la transgresser. L'on note ainsi, à ce moment précis, tout ce qui fait la caractéristique primordiale du choix. Et The Stanley Parable, alors, sous une forme propre néanmoins, de ne pas être différent de n'importe quel autre jeu du genre. The Path, notamment, qui demande à transgresser la consigne pour finir le jeu, est du même ressort, mais comme toute parabole, il convient de s'éloigner du familier pour caresser une autre facette du problème, primordiale ici, qui est celle du jugement. Le principe de jugement, comme je viens de le dire, dépend dans un jeu vidéo des différentes victoires et des différents échecs obtenus lors d'une partie et a toujours une dimension téléologique, finale. Il s'agit de prendre le chemin qui nous conduira le plus efficacement à l'objectif du jeu. Il est intéressant alors de constater que The Stanley Parable efface de son économie cette dimension particulière. Puisque le joueur ne peut jamais qu'avancer et agir sur son environnement, et que chaque action, y compris la mort du protagoniste, conduit à une fin prévue par les développeurs, il ne saurait être question de stratégie particulière. Et parce que les actions sont aussi banales, l'on ne saurait parler, comme dans notre vie quotidienne, de réussite ou d'échec, du moins d'un point de vue éthique. Nous pouvons certes considérer que parvenir à ouvrir la porte de notre chambre après une nuit de sommeil est une réussite, mais du point de vue moral, il sera difficile d'en tirer une philosophie. Il me semble alors que contrairement à ce que l'on peut croire et contrairement à ce qui a pu être dit, The Stanley Parable n'est pas un jeu sur le choix. C'est un jeu sur l'absence de choix, obtenu et par l'absence de liberté et par l'absence de jugement. Contrairement aux jeux vidéo qui prennent l'apparence du cartésianisme, celui-ci nous présente un monde entièrement et artificiellement spinozien, où la notion de libre arbitre est immédiatement niée. Mais comme toujours dans le média, il s'agit d'une illusion. Et la deuxième propriété du jeu se révèle alors, lorsque nous acceptons cette caractéristique.
Quatrième partie, le choix, la consigne et le non-choix.
Car il y a une grande illusion au sein de The Stanley Parable, que l'on accepte incidemment par habitude, mais qu'il nous faut pourtant ébranler pour en saisir toutes les implications. Il s'agit du principe de la consigne, inhérente au jeu vidéo, encore une fois, et prise en charge ici par le narrateur. À mon sens, le narrateur, dans The Stanley Parable, n'est pas un élément nouveau en lui-même. Au contraire, il s'agit d'un des éléments les plus classiques du média, que j'appelle ici la consigne. Il s'agit d'un élément que l'on retrouve régulièrement, et de plus en plus du reste, dans nos jeux vidéo, et qui consiste à donner sur l'écran de jeu une instruction conduisant à la prochaine étape de l'aventure. Elle est parfois absente, car la structure même du jeu est sa propre consigne. Dans Super Mario Bros. Ainsi, nous n'avons pas besoin que l'on nous dise d'atteindre le drapeau de fin de niveau, puisque la construction même du jeu nous invite à aller dans sa direction. En revanche, et dans des environnements plus ouverts ou moins contraints, tels Assassin's Creed, Outlast ou Dead Space, elle est nécessaire au joueur. Ici, le narrateur, que sa parole soit concomitante à une action ou antérieure à celle-ci, comme dans le cas de la porte, agit à la façon d'une consigne. Plus simplement, elle indique que l'action du joueur produit une réaction ou une récompense, et donc qu'il est sur la bonne voie. Le joueur, et cela a été également mon réflexe, de rechercher ses instants, et cela en devient un objectif. Le fameux passage du placard à balai, où le joueur patient déclenche une série de remarques désobligeantes du narrateur par son inaction, est représentatif de cela. La notion de choix dans le jeu vidéo, c'est-à-dire l'illusion du choix, la perversion du jugement et de la liberté, se réduit alors dans le jeu au concept de consigne, que l'on accepte ou à laquelle on s'oppose. Mais faire le contraire d'un ordre, ce n'est pas être libre, c'est au contraire agir sous une autre forme de contrainte. La chose est appelée parfois le paradoxe de Thélème, du nom de cette fameuse abbaye de Gargantua, où la seule règle « fais ce que tu voudras » est impossible à réaliser. Faire ce que l'on veut, c'est respecter la consigne, et donc ne pas être libre. Ne pas respecter la consigne, c'est renier sa liberté à nouveau. Que reste-t-il alors à l'individu, à l'homme, au joueur? Une dernière solution, rarement envisagée. Le non-choix. Ce que j'appelle non-choix n'est pas une absence de choix, soit une contrainte ou un ordre. C'est le choix fait en dehors des possibilités offertes par la structure qui nous propose de faire un choix, qui exploite au maximum notre jugement et notre liberté. C'est refuser, presque par anarchisme si l'on peut dire, les catégories proposées pour créer les siennes, en éjectant durablement les conséquences de notre action. Pour illustrer cela encore une fois, au restaurant, cela consiste à demander le dernier livre sorti ou une écharpe rouge. Rien dans la définition du choix n'exige effectivement de se plier aux exigences de ce qui est présenté. Nous nous imposons des règles pour différentes raisons, et il ne tient qu'à nous de s'échapper de ce que la tradition rhétorique appelle encore les « faux choix » pour faire prévaloir notre liberté parfaite, ou du moins de s'en approcher parfaitement. Dans le cadre du jeu vidéo, cette position du « non-choix » n'est jamais tenable. En effet, le « non-choix » ici consisterait à refuser de jouer, à rester immobile, à n'imprimer aucune action sur le contrôleur. C'est le choix de l'inaction. Mais les jeux, remarquons-le, de mettre en place souvent des garde-fous pour empêcher ceci. Le temps s'égrène, les ennemis vont à notre rencontre, d'autres apparaissent, comme dans Bubble Bobble, pour nous empêcher de buller et nous contraindre à jouer. Ce n'est pas le cas de The Stanley Parable. La véritable force de ce jeu, ce qu'il parvient à accomplir et que peu de jeux parviennent à faire, c'est de laisser au joueur le choix de l'inaction, le non-choix, et ce à plusieurs niveaux. C'est le choix de ne pas suivre l'aventure. Et dès le début, nous pouvons fermer la porte du bureau et refuser les règles du développeur. Nous pouvons rester stoïques face aux deux portes inaugurales et choisir de ne pas choisir. C'est d'ailleurs ce que nous montre l'une des séquences de fin. C'est renoncer à l'illusion de liberté pour la liberté de l'illusion et lâcher prise définitivement. En un mot commençant, The Stanley Parable est l'un des rares jeux où nous pouvons accomplir quelque chose en ne faisant rien. Du moins, en ne faisant pas ce que le jeu attend de nous. C'est en cela qu'il perturbe, et c'est en cela qu'il est intrigant. Si l'on devait gloser la parabole que ce jeu illustre, il ne faudrait pas en faire une représentation du choix et de ses conséquences. Il faudrait en faire une représentation des causes amenant au choix. Pertinemment spinozien, The Stanley Parable nous propose une conceptualisation de ce qu'est un jeu vidéo sous la forme d'un jeu vidéo. Il renvoie à ses œuvres d'auteurs écrivant des livres ou de peintres se représentant en tant que peintre. Il met au jour les contraintes qui pèsent sur nous, les règles qui nous astreignent, les objectifs qui nous attendent, mais nous propose aussi, comme tout objet réflexif, une issue de secours. Et pour ne pas pervertir son message, c'est encore au joueur de la trouver, et non pas au jeu de nous le proposer.
Cinquième partie, le nouvel esprit du jeu vidéo.
Tout ceci nous ramène alors, finalement, à notre problématique initiale et à l'attention qu'elle décrivait. Puisque, dans un jeu vidéo, tout doit être porté vers la finalité, même si elle est multiple. Comment peut-on y intégrer un choix libre, conscient et éclairé ? Poser la question, comme dit le proverbe, c'est déjà y répondre. Effectivement, et comme je l'ai montré, le jeu vidéo ne peut résoudre cette problématique. The Stanley Parable, parce qu'il élimine le concept de choix tel qu'on peut couramment le définir, pervertit les termes mêmes de cette question, et cela lui permet de faire illusion. Ce qui me semble alors important de noter, c'est que ce jeu parvient à produire cette réflexion d'une façon que l'on peut juger toute novatrice. Ce n'est pas la première fois qu'un jeu vidéo s'interroge sur ce qu'est un jeu vidéo. Link's Awakening, comme je l'avais montré, peut être interprété comme une réflexion sur le média lui-même. Chaque forme d'expression a commencé par s'interroger sur ce qui le définissait, ses limites et ses propriétés. Et on est toujours surpris de voir la clairvoyance avec laquelle les auteurs les plus anciens traitent leur sujet. Mais The Stanley Parable accomplit, ce me semble, quelque chose de neuf. Son discours n'est pas péremptoire et il est dissimulé. Il ne s'agit pas seulement de montrer les marionnettes, mais également de cacher les ficelles qui les dirigent. Nous avons traité jusqu'à présent que du plus haut niveau du problème, du concept. Revenons un peu plus bas et observons comment le gameplay nous permet d'accéder à cette interprétation. Nous avons vu plus haut comment le principe de la consigne avait été perverti. Mais il me semble qu'il est possible de considérer que tous les éléments entourant le jeu ont subi cette modification certaine de leur rôle premier. C'est en cela que l'identité de mode de ce jeu même si le remake sur Steam tente à effacer cette donnée, revêtent toute son importance. En effet, le mode est un processus qui consiste à prendre le connu pour produire de l'inconnu. Un ennemi n'apparaît pas à la bonne place, un nouvel objet surgit dans l'inventaire, une ligne de dialogue est entièrement réécrite. Autrement dit, ce principe de modification permet de jouer sur les attentes du joueur et de les décevoir. The Stanley Parable, parce qu'il utilise de prime abord le moteur source, joue sur les réflexes des joueurs de Half-Life 2 et, in extenso, des joueurs de tout crin. L'on prend rapidement ses marques concernant les contrôles, et l'introduction du jeu est en tout point exemplaire, en nous présentant l'environnement et le personnage contrôlable. Ce n'est que lorsque la partie débute que la distance avec un jeu vidéo traditionnel se fait jour. L'absence parfaite d'indications à l'écran, de barres de vie ou de compteurs, objets dont j'ai déjà parlé précédemment et qui virtualisent l'œuvre profondément, nous mènent sur le chemin de la réalisation. De même que l'absence parfaite d'inventaire, de choses à ramasser, à récupérer, ne serait-ce qu'une feuille de papier. L'interactivité avec le décor ne se limite qu'à quelques portes et à quelques boutons uniquement, autre chose que l'on peut associer à la réalisation. Lorsque surviennent alors les endroits les plus surréalistes de la partie, ils étonnent profondément. Il est alors quelque chose d'intéressant à ces moments fantastiques. Ils ont tous ce parti lié avec une analyse du jeu vidéo à ce qu'il est, à ce qu'il représente. L'on songe à cette ligne de l'aventure qui renvoie incidemment à ces jeux modernes et linéaires que l'ombre fustige, à ce mini-jeu consistant à éviter qu'une photo de nourrisson ne soit dévorée par les flammes et à l'action répétitive qui lui est associée, à cette parodie de Minecraft, et ainsi de suite. Autrement dit, la parabole de Stanley ne prend pas place dans un univers familier parce qu'on apporte des bureaux comme ceux que l'on peut trouver au coin de notre rue, mais bien parce qu'il limite, en les conceptualisant, en les réduisant à leur plus simple expression, des jeux que nous connaissons bien. Et cela lui est permis, vous vous en doutiez, parce que les développeurs, parce que les joueurs ont pleinement conscience de la grammaire du jeu vidéo, des signes qu'émission après émission nous étudions. C'est parce qu'il y a conscience qu'il peut y avoir réflexivité. Et The Stanley Parable, en cela, de faire partie, plus largement, des jeux qui réfléchissent sur le jeu vidéo. Pour reprendre un terme à la mode, il est méta. Mais ici, cette expression est employée de son plein droit.
Sixième partie, l'avant. Et l'après.
Il est malgré tout trop tôt encore pour déterminer l'influence qu'aura, à l'avenir, The Stanley Parable dans le monde du jeu vidéo. Si ce dernier n'a jamais cessé, comme je l'ai indiqué, de s'interroger sur ses codes et ses mécanismes, cela n'était, et cela n'est encore, surtout, que des clins d'œil ponctuels, des références plus ou moins cachées, et rares sont ceux qui en font l'essentiel de leur économie. Bien évidemment, ce genre d'initiative se doit d'être limité dans le temps. Non seulement les réflexions qui en découlent finiront souvent par se ressembler, nonobstant nouvelles révolutions, ce qui sera possible dans les années qui viennent, mais cela sera également assez vain. Mieux vaut chercher à exploiter au mieux les codes du média pour écrire de nouvelles histoires et de nouvelles fictions. L'on peut considérer néanmoins la sortie de ce jeu comme un jalon d'importance. De la même façon que, pour la littérature, les lettres persanes, les faux monnayeurs ou la jalousie, pour ne citer que les plus récents, ont été des précurseurs de nouveaux mouvements, The Stanley Parable peut être vu, et il est possible qu'il le soit à l'avenir, comme un initiateur d'une nouvelle forme d'expression vidéoludique, non par son propos, mais bien par sa narration. Ce double jeu entre les actions du joueur et la voix du narrateur, cette façon de détourner le concept de choix et de montrer son artificialité, autrement dit sa virtualisation revendiquée, alors que la tendance aujourd'hui est vers la réalisation, n'est pas sans influence sur la réception des œuvres et, surtout, sur les attentes des joueurs. Il ne faudrait pas croire, effectivement, que nous jouons aujourd'hui de la même façon que nous jouions dans le passé. Les attentes du public, dans sa totalité comme dans son particulier, ont évolué. Un joueur régulier n'attend pas la même chose à 8 ans qu'à 20, et ses achats évolueront de concert. Si cette transition se fait généralement sans heurts, une année après l'autre, une console après l'autre, il arrive également que des titres seuil inaugurent de nouvelles périodes. Ce fut Super Mario Bros. Jadis, ce fut A Link to the Past après, ce fut Final Fantasy VII ou Halo encore, soit des jeux qui, indépendamment de leur genre ou de leur mérite, ont profondément influencé et modelé les jeux subséquents qui chercheront soit à les imiter, soit à s'en éloigner. Mais autant ces derniers jeux furent des manifestations effectives des nouvelles directions du jeu vidéo, autant d'autres jeux, plus atypiques, proposèrent une réflexion sur leurs propres mécanismes et l'état présent du média. The Stanley Parable, alors, de ne pas être une réflexion sur le jeu vidéo, mais d'être une réflexion sur le jeu vidéo d'aujourd'hui. Conséquemment, il a plus de chances de vieillir que d'autres. Et si son importance est, selon moi, réelle, son succès sera de courte durée. C'est encore là une raison supplémentaire d'en parler dès à présent et d'en comprendre tous les aboutissants. Il n'aurait su sortir à un autre moment de l'histoire du jeu vidéo. Et l'on ne saurait y jouer qu'en sachant d'où il vient et ce qu'il est aujourd'hui. Destiné à ne jamais avoir de suite, il pourrait parfaitement être un cours magistral scandant la fin d'un semestre dédié à l'histoire du média.